Qu'est-ce que le capital? Récapitulons. Au niveau des comptes d'une entreprise comme d'un pays pris dans son ensemble ou de la planète tout entière, la production et les revenus qui en sont issus peuvent se décomposer comme la somme des revenus du capital et du travail. Revenu national égale revenu du capital plus revenu du travail. Mais qu'est-ce que le capital? Quelles en sont exactement les limites et les formes? Et comment sa composition s'est-elle transformée au cours du temps? Cette question, centrale pour notre enquête, sera examinée plus en détail dans les prochains chapitres. Il est toutefois utile de préciser dès à présent les points suivants. Tout d'abord, tout au long de ce livre, quand nous parlons de capital, sans autre précision, nous excluons toujours ce que les économistes appellent souvent, et à notre sens assez improprement, le capital humain, c'est-à-dire la force de travail, les qualifications, la formation, les capacités individuelles. Dans le cadre de ce livre, le capital est défini comme l'ensemble des actifs non humains qui peuvent être possédés et échangés sur un marché. Le capital comprend notamment l'ensemble du capital immobilier, immeubles, maisons, utilisés pour le logement et du capital financier et professionnel, bâtiments, équipements, machines, brevets, etc., utilisés par les entreprises et les administrations. Il existe de multiples raisons pour exclure le capital humain de notre définition du capital. La plus évidente est que le capital humain ne peut pas être possédé par une autre personne, ni échangé sur un marché, ou tout du moins pas sur une base permanente. Cela constitue une différence essentielle avec les autres formes de capital. On peut certes louer les services de son travail dans le cadre d'un contrat de travail, mais dans tous les systèmes légaux modernes, cela ne peut se faire que sur une base temporaire et limitée dans le temps et dans l'usage. Sauf, évidemment, dans les sociétés esclavagistes, où il est permis de posséder de façon pleine et entière le capital humain d'une autre personne et même de ses éventuels descendants. Dans de telles sociétés, il est possible de vendre les esclaves sur un marché et de les transmettre par succession, et il est monnaie courante d'additionner la valeur des esclaves aux autres éléments de patrimoine. Nous verrons cela quand nous étudierons la composition du capital privé dans le sud des États-Unis avant 1865. Mais en dehors de ces cas très particuliers, et a priori révolus, cela n'a pas beaucoup de sens de tenter d'additionner la valeur du capital non humain et celle du capital humain. Ces deux formes de richesse ont joué tout au long de l'histoire des rôles fondamentaux et complémentaires dans le processus de croissance et de développement économique, et il en ira de même au XXIe siècle. Mais, pour bien comprendre ce processus et la structure des inégalités qu'il engendre, il importe de les distinguer et de les traiter séparément. Le capital non humain, que nous appellerons plus simplement « le capital » dans le cadre de ce livre, regroupe donc toutes les formes de richesse qui peuvent a priori être possédées par des individus ou des groupes d'individus et transmises ou échangées sur un marché sur une base permanente. En pratique, le capital peut être possédé soit par des individus privés, on parle alors de capital privé, soit par l'État ou les administrations publiques, on parle de capital public. Il existe également des formes intermédiaires de propriété collective par des personnes morales poursuivant des objectifs spécifiques, fondations, églises, etc., sur lesquelles nous reviendrons. Il va de soi que la frontière entre ce qui peut être possédé par des individus privés et ce qui ne peut pas l'être évolue fortement dans le temps et dans l'espace, comme l'illustre de façon extrême le cas de l'esclavage. Il en va de même pour l'air, la mer, les montagnes, les monuments historiques, les connaissances. Certains intérêts privés voudraient pouvoir les posséder, mettant parfois en avant un objectif d'efficacité et pas seulement leur intérêt propre. Mais il n'est pas sûr du tout que ce soit là l'intérêt général. Le capital n'est pas un concept immuable, il reflète l'état de développement et les rapports sociaux qui régissent une société donnée. Capital et patrimoine. Pour simplifier l'exposition, nous utiliserons les mots capital et patrimoine de façon interchangeable, comme des synonymes parfaits. Selon certaines définitions, il faudrait réserver l'usage du mot capital aux formes de patrimoine accumulées par l'homme, bâtiments, machines, équipements, etc., en excluant donc la terre ou les ressources naturelles dont l'espèce humaine a hérité sans avoir eu à les accumuler. La terre serait donc un élément de patrimoine et non de capital. La difficulté est qu'il n'est pas toujours évident de séparer la valeur des bâtiments de celle des terrains sur lesquels ils sont construits. Plus grave encore, nous verrons qu'il est très difficile de séparer la valeur des terres vierges, telles que découvertes par l'homme il y a des siècles ou des millénaires, de celle des multiples améliorations, drainage, irrigation, jachère, etc., apportées par l'homme aux terres agricoles. Les mêmes problèmes se posent pour les ressources naturelles, pétrole, gaz, terres rares, etc., dont la valeur pure est souvent complexe à distinguer de celle des investissements qui ont permis de découvrir ces gisements et de les exploiter. Nous inclurons donc toutes ces formes de richesses dans le capital, ce qui bien sûr ne nous dispensera pas de nous intéresser de près aux origines des patrimoines, et en particulier à la frontière entre ce qui provient de l'accumulation ou de l'appropriation. Selon d'autres définitions, il faudrait réserver le mot « capital » aux éléments de patrimoine directement utilisés dans le processus de production. Par exemple, il faudrait considérer l'or comme un élément de patrimoine et non comme un élément de capital, car l'or ne servira à rien d'autre que comme une pure réserve de valeur. Là encore, une telle exclusion ne nous semble ni praticable, l'or est parfois utilisé comme facteur de production dans la joaillerie comme dans l'électronique ou les nanotechnologies, ni souhaitable. Toutes les formes de capital ont toujours joué un double rôle, d'une part comme réserve de valeur et d'autre part comme facteur de production. Il nous est donc apparu plus simple de ne pas imposer de distinction rigide entre le concept de patrimoine et celui de capital. De même, il nous semblerait peu pertinent d'exclure l'immobilier d'habitation de la définition du capital, au motif que ces biens immobiliers seraient non productifs, à la différence du capital productif utilisé par les entreprises et les administrations, bâtiments à usage professionnel, bureaux, machines, équipements, etc. En vérité, toutes ces formes de patrimoine sont utiles et productives et correspondent aux deux grandes fonctions économiques du capital. Si l'on oublie un instant son rôle comme réserve de valeur, le capital est utile d'une part pour se loger, c'est-à-dire pour produire des services de logement dont la valeur est mesurée par la valeur locative des habitations, et d'autre part comme facteur de production pour les entreprises et administrations produisant d'autres biens et services, et qui ont besoin de bâtiments, bureaux, machines, équipements, etc. pour réaliser ces productions. Nous verrons plus loin que ces deux grandes fonctions représentent chacune approximativement la moitié du stock de capital des pays développés en ce début du XXIe siècle. Résumons. Nous définirons le patrimoine national ou capital national comme la valeur totale, estimée au prix du marché, de tout ce que possèdent les résidents et le gouvernement d'un pays donné à un moment donné, et qui peut potentiellement être échangé sur un marché. Il s'agit de la somme des actifs non financiers, logements, terrains, fonds de commerce, bâtiments, machines, équipements, brevets et autres actifs professionnels détenus directement, et des actifs financiers, comptes bancaires, plans d'épargne, obligations, actions et autres parts de société, placements financiers de toute nature, contrats d'assurance vie, fonds de pension, etc., diminués des passifs financiers, c'est-à-dire de toutes les dettes. Si on se limite aux actifs et passifs détenus par les individus privés, alors on obtient le patrimoine privé ou capital privé. Si l'on considère les actifs et passifs détenus par l'État et les administrations publiques, collectivités locales, administrations de sécurité sociale, etc., on obtient le patrimoine public ou capital public. Par définition, le patrimoine national est la somme de ces deux termes. Patrimoine national égale patrimoine privé plus patrimoine public. Actuellement, le patrimoine public est extrêmement faible dans la plupart des pays développés, voire négatif quand les dettes publiques dépassent les actifs publics. Et nous verrons que le patrimoine privé représente un peu partout la quasi-totalité du patrimoine national. Mais il n'en a pas toujours été ainsi, et il importe donc de bien distinguer les deux notions. Précisons que le concept de capital que nous utilisons exclut certes le capital humain, qui ne peut être échangé sur un marché, tout du moins dans les sociétés non esclavagistes, mais ne se réduit pas pour autant au capital physique, terrain, bâtiment, équipement et autres biens ayant une existence matérielle. Nous incluons également le capital immatériel, par exemple sous la forme des brevets et autres droits de la propriété intellectuelle qui sont comptés soit comme actifs non financiers, si des individus détiennent directement des brevets, soit comme actifs financiers, lorsque des personnes privées détiennent des actions dans des sociétés détenant elles-mêmes des brevets, ce qui est le cas le plus souvent. Plus généralement, de multiples formes de capital immatériel sont prises en compte à travers la capitalisation boursière des sociétés. Par exemple, la valeur de marché d'une société dépend souvent de sa réputation et de celle de ses marques, de ses systèmes d'information et de ses modes d'organisation, des investissements matériels et immatériels réalisés pour accroître la visibilité et l'attractivité de ses produits et de ses services, de ses dépenses de recherche et développement, etc. Tout cela est pris en compte dans le prix des actions et autres parts de société, et donc dans la valeur du patrimoine national. Il y a certes un côté largement arbitraire et incertain dans le prix que les marchés financiers mettent à un instant donné sur le capital immatériel d'une société particulière, voire d'un secteur tout entier, comme l'atteste l'éclatement de la bulle Internet de 2000, la crise financière en cours depuis 2007-2008 et plus généralement l'énorme volatilité boursière. Mais il est important de réaliser dès à présent qu'il s'agit là d'une caractéristique commune à toutes les formes de capital et pas seulement au capital immatériel. Qu'il s'agisse d'un immeuble ou d'une entreprise, d'une société industrielle ou de services, il est toujours très difficile de mettre un prix sur le capital. Et pourtant, nous verrons que le niveau global du patrimoine national au niveau d'un pays pris dans son ensemble et non de tel ou tel actif particulier suit un certain nombre de lois et de régularités. Précisons enfin qu'au niveau de chaque pays, le patrimoine national peut se décomposer en capital intérieur et capital étranger. Patrimoine national égale capital national égale capital intérieur plus capital étranger net. Le capital intérieur mesure la valeur du stock de capital, immobilier, entreprise, etc., implanté sur le territoire du pays considéré. Le capital étranger net, ou actif étranger net, mesure la position patrimoniale du pays considéré vis-à-vis du reste du monde, c'est-à-dire la différence entre les actifs possédés par les résidents du pays dans le reste du monde et les actifs possédés par le reste du monde dans le pays en question. À la veille de la Première Guerre mondiale, le Royaume-Uni et la France possédaient des actifs étrangers nets considérables dans le reste du monde. Nous verrons qu'une des caractéristiques de la mondialisation financière à l'œuvre depuis les années 1980-1990 est que de nombreux pays peuvent avoir des positions patrimoniales nettes assez proches de l'équilibre, mais des positions brutes extrêmement élevées. Autrement dit, les jeux de participation financière croisés entre sociétés font que chacun possède une part importante du capital domestique des autres pays, sans pour autant que les positions nettes entre pays soient très importantes. Il va de soi qu'au niveau mondial, toutes les positions nettes s'équilibrent, si bien que le patrimoine mondial se réduit au capital intérieur de la planète tout entière. Le rapport capital-revenu. Maintenant que nous avons défini les concepts de revenu et de capital, nous pouvons présenter la première loi élémentaire reliant ces deux notions. Commençons par définir le rapport capital-revenu. Le revenu est un flux. Il correspond à la quantité de richesses produites et distribuées au cours d'une période donnée. On choisit généralement l'année comme période de référence. Le capital est un stock. Il correspond à la quantité totale de richesses possédées à un point donné du temps. Ce stock provient des richesses appropriées ou accumulées au cours de toutes les années passées. La façon la plus naturelle et la plus féconde de mesurer l'importance du capital dans une société donnée consiste à diviser le stock de capital par le flux annuel de revenus. Ce ratio capital-revenu ou rapport capital-revenu sera noté bêta. Par exemple, si la valeur totale du capital d'un pays représente l'équivalent de 6 années de revenu national, alors on note bêta égale 6 ou bêta égale 600%. Actuellement, dans les pays développés, le rapport capital-revenu se situe généralement entre 5 et 6 et provient presque uniquement du capital privé. en France comme au Royaume-Uni, en Allemagne comme en Italie, aux États-Unis comme au Japon, le revenu national atteint ainsi environ 30 000, 35 000 euros par habitant au début des années 2010, alors que le total des patrimoines privés, net des dettes, est typiquement de l'ordre de 150 000, 200 000 euros par habitant, soit entre 5 et 6 années de revenu national. Il existe des variations intéressantes entre pays, à l'intérieur de l'Europe comme à l'extérieur. Le rapport bêta est ainsi supérieur à 6 au Japon et en Italie, et inférieur à 5 aux États-Unis et en Allemagne. Le patrimoine public est tout juste positif dans certains pays et légèrement négatif dans d'autres, et ainsi de suite. Nous étudierons cela de façon détaillée dans les prochains chapitres. À ce stade, il est suffisant d'avoir présent à l'esprit ces ordres de grandeur qui permettent de fixer utilement les idées. Le fait que le revenu national soit de l'ordre de 30 000 euros par habitant et par an, 2 500 euros par mois, dans les pays riches des années 2010, ne signifie évidemment pas que chacun dispose de cette somme. Comme toutes les moyennes, ce revenu moyen dissimule d'énormes disparités. En pratique, beaucoup de personnes ont un revenu nettement inférieur à 2 500 euros par mois et d'autres ont des revenus plusieurs dizaines de fois supérieurs. Les disparités de revenus proviennent d'une part de l'inégalité des revenus du travail et d'autre part de l'inégalité encore plus forte des revenus du capital, qui découle elle-même de l'extrême concentration des patrimoines. Ce revenu national moyen signifie simplement que si l'on pouvait distribuer à chacun le même revenu, sans modifier le niveau global de la production et du revenu national, alors ce revenu serait de l'ordre de 2 500 euros par mois. En pratique, le revenu médian, c'est-à-dire le revenu au-dessous duquel se trouve la moitié de la population, est généralement de l'ordre de 20-30% plus faible que le revenu moyen. Cela provient du fait que le haut de la distribution est beaucoup plus étiré que le bas et le milieu, ce qui tire la moyenne et non la médiane vers le haut. Précisons également que le revenu national par habitant correspond à un concept de revenu moyen avant impôts et transferts. En pratique, les habitants des pays riches choisissent de consacrer entre un tiers et la moitié de leur revenu national aux impôts, prélèvements et taxes variées permettant de financer des services publics, des infrastructures, la protection sociale, une bonne part de leurs dépenses de santé et d'éducation, etc. De même, un patrimoine privé de l'ordre de 180 000 euros par habitant, soit 6 années de revenus moyens, n'implique pas que chacun possède un tel capital. Beaucoup possèdent nettement moins, et certains possèdent plusieurs millions ou dizaines de millions d'euros de capital. Pour une bonne partie de la population, le patrimoine se réduit souvent à très peu de choses, nettement moins qu'une année de revenus. Par exemple, quelques milliers d'euros d'avance sur un compte en banque, l'équivalent de quelques semaines ou quelques mois de salaire. Certains ont même un patrimoine négatif, lorsque les biens qu'ils possèdent ont une valeur inférieure à leur dette. Inversement, d'autres possèdent des patrimoines considérables, représentant l'équivalent de 10 ou 20 années de leurs revenus, voire davantage. Le rapport capital-revenu, mesuré au niveau d'un pays dans son ensemble, ne nous dit rien sur les inégalités à l'intérieur de ce pays. Mais ce rapport bêta mesure l'importance globale du capital dans une société, et son analyse constitue donc un préalable indispensable à l'étude des inégalités. L'objectif central de la deuxième partie de ce livre est précisément de comprendre pourquoi et comment le rapport capital-revenu varie entre les pays et évolue dans l'histoire. Afin d'aider chacun à visualiser la forme concrète que prennent les patrimoines dans le monde d'aujourd'hui, il est utile de préciser que le stock de capital dans les pays développés se partage actuellement en deux moitiés approximativement égales. Capital logement, d'une part, et capital productif utilisé par les entreprises et administrations, d'autre part. Pour simplifier, dans les pays riches des années 2010, chaque habitant gagne en moyenne de l'ordre de 30 000 euros de revenus annuels et possède environ 180 000 euros de patrimoine, dont 90 000 euros sous forme d'immobilier, d'habitation, et 90 000 euros sous forme d'actions, obligations et autre part, plans d'épargne ou placements financiers investis dans les entreprises et les administrations. Il existe des variations intéressantes entre pays que nous analyserons dans le prochain chapitre. Mais en première analyse, l'idée d'un partage en deux parties de valeurs comparables constitue un point de repère utile.